Bonsoir à tous, merci d'être là. Bienvenue au quatrième Jeudi des Boiseries. Les Jeudis des Boiseries, pour les personnes qui ne connaîtraient pas le principe, c'est chaque deuxième jeudi du mois. C'est facile, vous cochez tous les deuxièmes jeudis du mois jusqu'à la fin de l'année, sauf juillet-août. M'en voudrais pas, on fait une petite pause sur juillet-août, mais sinon, tous ces deuxièmes jeudis du mois, à 18h30, entrée libre, ici dans la salle des Boiseries. L'idée, c'est d'échanger avec une artiste de plusieurs domaines, musicien, écrivaine, plasticienne, chorégraphe, etc., pour évoquer, échanger ensemble sur l'idée de création. Les personnalités qui viennent, je parle de personnalités, les personnalités qui viennent sont choisies parce qu'elles ont déjà une certaine œuvre. Elles peuvent parler de la perspective de leur travail. On va essayer d'approfondir un peu ce sillon de la création, comment est-ce qu'on élabore une création, qu'est-ce que c'est que créer aujourd'hui. Voilà un petit peu le fil conducteur de Jeudi des Boiseries. Vous pouvez noter sur vos tablettes tout de suite que le prochain jeudi, ce sera le 11 mai, et nous échangerons avec une chorégraphe, Virginie Barjonnet. Voilà. Je place vite fait quelques annonces d'événements qui auront lieu le jeudi prochain, le 20 avril. Pas ici, mais qui concernent des gens que j'apprécie. Alors, il faudra choisir. Vous aurez trois possibilités. La reprise des cafés philo à Fleury-la-Montagne, pour ceux qui connaissent. Philippe Leroux, qui les organisait là pendant des années, a fait une longue pause à cause du Covid et puis aussi de son état de santé. Et là, il reprend courage, il reprend force et énergie. Et donc, il relance les cafés philo à Fleury-la-Montagne. Le premier café philo de cette reprise, bonsoir, entrez. Vous restez sur le pas de la porte, comme vous voulez. Entrez. Par contre, il faudra peut-être, oui, ressortir des chaises. Je vous laisse faire. Merci. Le premier thème de ce nouveau, de cette reprise de Café Philo, ce sera crise. Crise au pluriel. Un autre rendez-vous, là, pour les Rouennais, c'est à Entrepotes. Il y a un concert, enfin, il se trouve souvent des jam jazz, donc le prochain, ça sera le même jour, le 20 avril. Et puis moi, en fait, pour m'excuser de ne pas être là, à aucun de ces rendez-vous, je suis moi-même invité à la bibliothèque de Lantigny. Youpi, voilà, comme ça. Voilà, merci en tout cas d'être là, et en attendant tous ces rendez-vous, ce soir, on reçoit la plasticienne Catherine Chanteloube. Alors, le mot plasticienne, parce qu'il se trouve que je parlais de notre rendez-vous à quelqu'un il n'y a pas longtemps et qui ignorait ce que c'était que ce mot de plasticien, plasticienne. Alors, je lui ai donné ma propre définition. La vôtre, c'est laquelle?
Oui, parce qu'on se vous voit.
Oui, on se vous voit.
Donc, on se voit. Donc, les arts plastiques, ça comprend... pas seulement la peinture, pas seulement la sculpture, pas seulement la vidéo, pas seulement le dessin ou le modelage, c'est un tout. Et ça prend des formes diverses et variées. Et
plasticien, ça rassemble toutes ces formes. On s'approche quand même plutôt du volume et de l'installation les arts plastiques,
aussi.
Au sens
oui.
large du terme.
Après, dans les arts plastiques, on peut avoir de la sculpture et du son, de la musique, de la vidéo, toutes les formes qu'on peut voir actuellement. Quoi.
Voilà, donc ça, c'était une première précision. Catherine Chanteloube est née la même année que Cindy Crawford et Kouchen. Vous saviez ça?
Non.
Voilà. L'année aussi de la création de la révolution culturelle en Chine.
Ça, je savais, oui.
Et l'année de la destruction des Bouddhas du Tibet par les gardes rouges chinois. je voulais juste rappeler ce point pour juste souligner qu'il n'y a pas que les talibans qui pratiquent le dynamitage de Bouddha, pratique artistique comme d'autres. L'année du dernier concert des Beatles aussi, la dernière fois qu'ils ont joué ensemble, c'était l'année de votre naissance. Voilà. Vous êtes né à Rouen.
Oui.
Voilà, donc premier début de parcours scolaire à Rouen, j'imagine.
Oui.
Et puis vous vous rendez à Saint-Étienne pour entrer dans la fac d'art plastique,
oui,
nouvellement créée à cette époque-là.
Oui.
Voilà. Pourquoi cette école d'art et qu'est-ce que vous espériez y apprendre et qu'est-ce que vous y avez appris?
Alors, l'université d'art plastique, toute créée, toute neuve, quoi. J'avais essayé l'entrée aux Beaux-Arts, ça n'a pas marché, voilà. Et donc je me suis retournée vers cette fac parce qu'elle venait de se créer et je me suis dit que ça peut être le prolongement d'une terminale littéraire que j'avais faite donc au lycée Jules Ferry, voilà. Et en fait, j'étais très heureuse d'avoir fait ce choix-là, parce que comme c'était tout nouveau, on était un tout petit groupe et on a pu vraiment travailler toutes les matières de manière très approfondie. Et c'était très sympa en plus, puisqu'on était très peu.
Et vous aviez notamment un prof assez connu, enfin qui n'était pas seulement prof, mais galeriste, Bernard Cesson, non?
Ah oui,
était là.
Oui, Bernard Cesson.
J'ai eu peur de m'être trompé.
Oui, non, il intervenait, il me donnait des cours d'histoire de l'art, oui, avec ses spécialités, Renaissance, la Renaissance, c'est le mouvement support-surface, dont il était fan.
Un fan, ouais. D'accord. Est-ce que vous y avez appris? Ça, c'était les raisons pour lesquelles... Non, je ne sais pas.
Ah, ce que j'ai appris, oui.
Oui, par rapport à ce que vous aviez, ce que vous aviez envisagé d'apprendre quand vous êtes entré dans cette école et avec quoi vous êtes ressorti. Vous avez fait tout le cursus?
Alors, ce que je voulais apprendre surtout, c'était entrer dans quelque chose qui ressemblait aux arts plastiques. J'avais 18-19 ans, donc je ne savais pas trop. Et ce qui me plaisait, c'est qu'il y avait une partie très pratique avec différents profs, donc différentes façons d'aborder les arts plastiques. Et il y avait toute une partie très littéraire. Il y avait de la philo, il y avait ce qu'on appelait esthétique, de la sémiologie, voilà.
Sémiologie, on peut rappeler pour des personnes
sémiologie, qui sont... Sémiologie, c'est la signification des images, des signes, des mots... Par exemple, savoir décrypter une affiche, voilà.
C'était l'époque où on lisait beaucoup Barthes, peut-être, ou...
Voilà.
Oui. À cette époque-là, je crois savoir que vous aviez un atelier à Saint-Étienne.
Oui.
Pendant le temps de vos études.
J'ai toujours eu un atelier.
Vous avez toujours eu un atelier. Vous y travailliez, en plus des cours que vous suiviez, Enfin, vous aviez votre propre parcours déjà ou...
Alors, ce qui s'est passé, c'est que les trois premières années étaient une sorte de tronc commun. Et après, maîtrise, quatrième et cinquième année, là, c'était un travail beaucoup plus personnel. Travail de recherche qu'on faisait ou qu'on ne faisait pas. Donc, beaucoup sont allés sur le CAPES et l'enseignement. Et on était très peu allés du côté de la recherche, donc de la création... Alors, nos profs nous guidaient, nous encadraient encore un petit peu, mais très peu.
Et le regard par rapport à votre travail à l'époque, les profs s'exprimaient là-dessus ou vous ont fait évoluer sur le travail de l'époque ou vous leur montriez pas?
Non, ils encadraient, ils venaient voir.
D'accord.
Et après, il fallait exposer, donc j'exposais déjà à cette époque-là.
D'accord. Vous m'aviez dit que vous utilisiez beaucoup la couleur à l'époque.
Oui.
Et j'ai lu quelque part que votre couleur préférée c'était le blanc.
Oui.
Vous l'avez dit.
Je sais pas.
C'est entre guillemets de blanc de sel et de ciel. J'aime beaucoup cette expression.
Oui.
Il me semble que vous avez abandonné la couleur.
Alors, j'ai beaucoup travaillé la couleur. J'ai laissé tomber la couleur petit à petit pour c'est pas de la non-couleur, c'est d'autres couleurs, je dirais. Le blanc, les couleurs des matériaux naturels, comme les couleurs de lin, de chanvre, voilà.
On va y revenir. Donc après Saint-Étienne, vous ne vous arrêtez pas là, vous continuez, vous allez à Paris, l'école d'art de Paris, la grande école nationale, peut-être, je ne sais pas.
Oui, c'était l'université, toujours. C'était Panthéon-Sorbonne, c'était rattaché à la fac d'art plastique, c'était un montage un peu compliqué. Et voilà, je voulais faire un doctorat. Mais j'ai fait 2 ans et je me suis arrêtée.
Le doctorat que vous envisagiez, c'était quoi?
C'était compliqué parce que j'avais prévu de parler de ce que je faisais, donc de ma peinture à l'époque, puisque je viens de la peinture, dessin-peinture, et j'ai très vite compris que je pouvais pas faire les deux à 20 et quelques années, et produire, avoir une création, une production artistique personnelle et essayer de la diffuser, de la montrer, etc. Et en plus, parler de mon travail.
Réfléchir dessus.
Voilà. C'était un petit peu compliqué. Et puis j'étais trop jeune. Puis au bout d'un moment, ça ne m'intéressait pas. Quoi. Ouais. Ça ne m'intéressait plus.
Et vous êtes toujours peut-être là à ce... Comment dire, vous réalisez, vous produisez, vous créez. Et est-ce qu'aujourd'hui, vous réfléchissez sur ce que... Vous théorisez votre travail. Réfléchir dessus, j'en sais rien. Mais est-ce que vous théorisez votre travail? Non.
Théoriser, non, c'est un grand mot, je trouve. Mais,
oui, mais j'en connais à qui ça fait pas peur.
Oui, mais bon, non, moi je théorise pas. J'essaye juste de faire en sorte que les choses que je présente aient du sens, au moins pour moi déjà, et peut-être pour les autres si c'est possible.
on va en parler. Après Paris, vous revenez ici, vous revenez sur Rouen, enfin dans la région. Pourquoi? Pourquoi vous êtes resté à Paris? Beaucoup d'artistes restent...
Trop dur.
Oui, trop dur. À quel niveau trop dur?
Vraiment trop dur par rapport au manque de la nature. Voilà. Être dans le minéral, sur les trottoirs de Paris, c'est pas mon truc.
D'accord. Oui, on verra que la nature a une grande importance pour vous. Peut-être même déjà au niveau de... Parce qu'on se demande toujours... alors pour tout dire, on se connaît un petit peu avec Catherine. Et il y a quelques années, avec une compagnie qui s'appelle NU, on avait conçu une pièce qui s'appelait Peindre. Et donc, on vous avait interviewé à ce titre-là. Et l'idée qui nous intéressait, qui nous motivait, entre autres, c'était celle du pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on crée? Pourquoi est-ce que des personnes créent et pas d'autres? Et voilà. Donc comme là, j'en profite, on revient à Rouen, on revient à vos racines, on revient à votre enfance. Qu'est-ce qui, avant les écoles, avant etc., qu'est-ce qui fait que vous sentez une fibre artistique? D'où ça vient?
On sait pas.
Voilà. C'était à peu près la même réponse la dernière fois, il y a quelques années, donc on n'a pas évolué.
Non, je pense que c'est une... Oui, c'est une curiosité, c'est l'observation, pour moi, de la nature. Après, ça peut être... pour chacun, c'est différent. Moi, j'étais quand même déjà bien, bien branchée dans les bois... les prêts, à me promener, à observer, à cueillir, à récolter.
Oui, cueillir et récolter, déjà.
Et aussi à coudre un petit peu. Voilà. Ce qui expliquera la suite aussi.
Ce qui expliquera la suite.
Quelques années après, la couture est revenue comme ça, enfin la couture, le tissu, le fil, l'aiguille, tout est revenu d'un coup quand j'ai eu 32-33 ans à peu près. J'explique pas pourquoi, c'est comme ça.
Donc en fait, quand à Saint-Étienne vous aviez cet atelier que vous travailliez sur des formats, plutôt des grands formats,
oui,
vous aviez la place,
peintures, ouais.
Des grandes peintures, vous étiez un peu éloigné de peut-être de vos premières amours sur la collecte, la récupération, vous étiez dans une autre
digression. Un petit peu dans une autre démarche, oui, j'étais plus dans des grandes toiles abstraites. Voilà.
Oui. Je sais pas, enfin, vu comme ça ressemble à une sorte de boucle pour revenir à quelque chose qui était
Oui.
plus ancré en vous, plus dans l'idée de ces notions de d'où ça vient, etc. Souvent le cadre familial aide un peu. Non, enfin, je sais pas, vous aviez des parents qui s'intéressaient à ce que vous faisiez ou qui.
Non, pas forcément, mais c'est vrai que ce qui me portait le plus quand j'étais petite, c'était d'être dans l'Allier. On avait une petite maison de campagne et là, oui, j'ai des souvenirs très précis de choses que je faisais avec de la mousse, avec voilà, enfin comme un enfant qui joue dans la nature. Après, il y en a qui gardent ça, puis d'autres qui passent à autre chose, qui le laissent. Peut-être que c'est ça, je sais pas.
Cette envie de campagne a une grande importance pour vous. Je vous ai vu aussi créer ce qu'on appelle des installations dans la nature. Je ne sais pas si on peut parler de land art exactement, mais je ne sais pas. Est-ce que ce serait du land art?
Ouais, enfin.
Oui, non, bah, je ne sais pas. Le land art, je ne sais pas si. Levez le doigt ceux qui ne savent pas. Je ferai une interrogation à la fin. Non, mais il faut toujours expliquer les choses, en fait. Même si on se dit, bah, comme plasticienne tout à l'heure, donc land art. Land art, c'est un mouvement artistique qui est né aux États-Unis,
Dans les années
évidemment, dans
70,
les années
ouais.
70. Des artistes en ont eu un peu marre de la tyrannie des galeristes, etc., et sont sortis, et ont sorti l'art. Et land art, en fait, c'est de l'art qui investit le paysage. Voilà. Et de l'art, parfois même à l'échelle du paysage.
Oui, c'est
Il y a
enfin eux, c'est
c'est
à
pour
grande
ça que
échelle,
je vous demande si on peut vraiment parler de land art, c'est de l'intervention dans la nature.
Oui, je préfère dire une pièce in situ,
In situ.
voilà, qui est faite pour un lieu précis, parce que land art, c'est voilà, c'est quand même plus large et
Oui,
plus lourd
souvent,
et voilà.
ça investit des paysages entiers. Il y a
Ouais.
des
Alors que moi, non,
des
c'était pas.
œuvres très, très, très particulières. Donc, on ne parlera pas de land art, mais on va parler de volume, en fait. Parce que moi, à l'époque, les premières œuvres que j'ai vues de vous étaient des œuvres en deux dimensions. C'était du dessin ou de la peinture, de la gravure, figurative,
Oui.
souvent, enfin,
Oui.
et même extrêmement figuratif,
Oui.
puisqu'il y avait des représentations d'éléments naturalistes, de fleurs, de
Ouais.
feuilles, de choses comme ça, très naturalistes, hein. Pas la façon des planches naturalistes, mais il y avait une sorte d'écho de ça dans le détail, dans la précision. Et puis vous passez au volume. Il y a eu un déclic, il y a eu un moment où vous sentiez que vous arriviez à une.
Oui,
Vous aviez exploré ça et.
en fait, j'ai beaucoup travaillé effectivement le dessin, la peinture, le pastel aussi, la gravure. Et à un moment donné, j'explique pas non plus pourquoi ça s'est passé. J'avais juste un gros ras-le-bol des lignes droites et des angles. Ça, c'est clair, je n'en pouvais plus d'être vraiment coincée dans un format rectangulaire, carré. Et aussi, on en parlait l'autre jour, d'avoir toujours avoir besoin d'un menuisier pour faire un châssis, d'un encadreur pour remettre sous verre, etc. Je trouvais que c'est voilà, ça coupait les ailes, quoi. Ça limitait vraiment trop. Bien que mes toiles, je les tendais d'abord au mur et après, je les coupais en fonction de la taille que je voulais. Mais bon. Voilà, il s'est passé quelque chose dans ma vie. J'ai eu ma fille et après, quand je suis retournée dans mon atelier, je n'ai plus peint, je n'ai plus dessiné. J'ai pris du tissu, j'ai pris une aiguille, du fil, la corde et hop, c'est parti comme ça. Et donc, quelque chose de beaucoup plus physique et le volume est né tout de suite, quoi. Alors que je ne pensais pas du tout être sculpteur un jour. Et
On
après,
va. Oui, pas.
les installations sont arrivées et du coup, c'était pas juste du volume pour moi, mais c'était du volume pensé pour les spectateurs, enfin les visiteurs qui circulent autour ou dedans.
Oui, le rapport à l'œuvre est différent aussi à cause de ça.
Voilà.
On regarde pas. On est moins passif peut-être par rapport à une œuvre en volume. Je sais pas. C'est une idée qui m'apparaît comme ça.
Je ne sais pas. Voilà. Je ne sais pas, quand on voit les nymphées Anemone et qu'on marche à côté, on n'est pas passif.
La dimension fait que, peut-être on plonge en immersion. Je vous ai entendu dire aussi que c'est assez logique pour la vision humaine d'avoir quelque chose qui n'est pas justement limité par des lignes, mais ouvert parce que... L'œil est rond, la vision est ronde. Alors...
Oui, pour moi, la vision est ronde, elle n'est pas avec des lignes, donc c'est peut-être pour ça qu'il y a beaucoup de ronds dans mon travail. Enfin, je pense beaucoup en cercle.
Oui, oui.
Voilà. Et, enfin, pour moi, c'est tellement logique qu'on voit rond et qu'on ne voit pas des lignes droites. Que, voilà.
On va revenir sur les matières, sur les travaux, sur vos travaux en volume, etc. J'ai un peu bouleversé mon conducteur parce que Catherine a eu non seulement donc la gentillesse de vous offrir les petits catalogues que vous voyez sur les chaises, qui sont des brochures qui ont été faites à l'occasion de sa dernière exposition. On va l'utiliser un petit peu pour en discuter. Mais aussi, elle a apporté quelques pièces qu'on pourra regarder. Elles sont sur la table ici, encore voilées pour l'instant. On les dévoilera tout à l'heure. Et donc on va parler maintenant d'un autre aspect de votre démarche, parce que je pense pour vous que c'est très très proche du reste, c'est la médiation, le travail de médiation, le travail avec d'enseignement aussi. Vous avez fait de la médiation dans un musée, je crois, dans des collèges, des lycées peut-être.
Moi je suis pas tout seul dans mon coin, j'ai besoin des autres et je bosse beaucoup avec les autres, donc tout type de public, depuis des années, j'ai toujours fait ça en fait. Depuis l'époque de la fac.
D'accord.
Donc j'interviens avec. Je peux intervenir avec des maternelles comme avec un public plus handicapé comme l'ADAPI. J'ai beaucoup travaillé avec des adultes qui sont à l'ADAPI. Voilà, avec des gens qui vont être plus spécialistes. J'ai fait un travail à Angoulême il y a 2-3 ans avec des élèves qui étaient option art plastique. Et on a fait une œuvre en un jour et demi à réunir, à plusieurs mains. Donc ça, c'est des chouettes moments. Et puis après, j'ai travaillé aussi au musée de Charlieu pendant 5 ans, il y a plusieurs années, où là, je faisais de la médiation, je faisais plusieurs choses. J'ai travaillé au musée de Roanne aussi en tant que médiatrice, à faire visiter les expositions.
Des ateliers aussi, des animations.
Des ateliers aussi. J'ai fait pas mal de projets artistiques au sein du musée des Chelettes, mais financés par les DRAC, la DRAC, sur des projets avec différents types de niveaux d'élèves. Et là, depuis quelques années, je suis prof d'art plastique. Quelques heures par semaine et pas trop, parce qu'après, c'est trop dur.
Ça prend du temps.
Ça prend beaucoup, beaucoup d'énergie. Ça en donne, mais ça en prend beaucoup. Et voilà. Et le jour où j'en aurai assez, j'arrêterai. Mais pour l'instant, ça va.
Ça va. Ouais. Ça vous apporte quelque chose par rapport, humainement, j'imagine.
Oui,
mais
oui, humainement, c'est.
Artistiquement, est-ce que il y a des choses qui naissent de ces expériences-là ou c'est très différent et ça n'interfère pas, ça n'apporte rien.
Alors. C'est pas le travail qui va m'apporter quelque chose, mais du moment que je suis en contact avec un groupe, qu'il faut que j'intervienne, je suis forcément obligée de faire des recherches, de trouver un thème, de trouver une idée, et de chercher autour de ça. Et du coup, moi, forcément, je m'enrichis, je découvre des choses, et c'est ça qui est intéressant. Après, avec un boulot régulier comme l'enseignement... c'est un petit peu différent. Mais là, le but, c'est de ne pas tomber dans la routine et de trouver chaque fois des idées nouvelles pour apporter... que moi, je me sente neuve chaque fois. Quoi, ouais.
L'enseignement, je ne sais pas, mais il y a un programme à suivre aussi, peut-être, non, enfin, sûrement, vous avez
il y a des grandes lignes.
Des consignes, non, des grandes lignes.
Des grandes lignes.
Il faut jouer avec.
Et après, on fait ce qu'on veut dedans. Voilà.
Et dans la même veine d'échange, de travailler avec d'autres, vous avez aussi travaillé avec d'autres artistes, enfin dans des disciplines différentes. Je pensais à de la chorégraphie,
Virginie Bergenet, avec Virginie qui viendra aussi. Le mois prochain.
D'accord.
Ouais. On a fait quoi ensemble donc ça, c'était il y a 13 ans, je ne sais plus combien. On a fait le défilé de la Biennale de la danse avec Virginie comme chorégraphe. Moi, j'étais au costume. C'était chaud. et il y avait Yves Perret au décor.
Ah oui, c'est vrai.
Voilà. Yves Perret et Alexandre Michel à la musique. Voilà. Et ça avait été une expérience inouïe parce que j'avais jamais fait ça et que Yves Perret est venu me voir un jour en disant « Catherine, il faut faire… ok, mais je suis pas couturière, moi, pour habiller 200 personnes. » Et en fait, ce qu'il fallait, c'était surtout penser les volumes. Donc, il y avait des volumes pour les danseurs, les danseuses et ceux qui étaient autour aussi, pour l'équipe. Et puis, des vêtements. Donc là, j'avais une vingtaine de bénévoles qui, tous les lundis, ou je sais plus, on se rejoignait et on travaillait. Donc, j'avais deux femmes dans l'équipe qui étaient, dont le métier était la couture. Et donc, elles ont beaucoup œuvré. Moi, j'ai dessiné, puis après.
Il y avait un thème
Alors, c'était la vie en rose, je crois, il me semble me souvenir. Et nous, c'était là, autour de la gourmandise, des bonbons, c'est parce qu'on avait des choses très colorées, des volumes très colorés avec lesquels les danseurs et les danseuses jouaient. La compagnie du 6e étage qui est en fait une compagnie qui était sur Paris, qui est à Nice maintenant, et ce sont des amis à moi, danseurs et comédiens, et voilà, j'ai travaillé 2-3 fois avec eux autour de mon travail. Notamment, on a fait une pièce qui s'appelle Climat, qu'on aurait bien aimé faire venir dans le Rouennais pour, voilà, mais bon, ça n'a voilà, jamais été... pu se concrétiser.
Tant le dossier est bien. la musique aussi. Enfin, je me souviens de votre exposition. Peut-être qu'à Beaulieu, il y avait déjà la musique de Jérôme Baudonclair.
Oui.
Et aussi au Cordelier, parce que pour ceux qui ne savent peut-être pas, Catherine Chanteloup a exposé au Cordelier il y a quelques années.
2014, il me semble.
Oui, déjà. Ça fait 8 ans déjà. 9 ans. D'accord. Donc, Jérôme, vous avez demandé à Jérôme Baudonclair de créer une musique d'ambiance, non ?
Comment c'est passé ? C'est pas une musique d'ambiance, en fait. J'avais prévu de faire une installation qui s'appelle Terre Douce, qui n'est pas en photo dans le catalogue, parce que je ne l'avais pas installée chez Bohème. Et Terre Douce, c'est une installation qui est très simple. C'est des tissus, des mousselines de coton qui sont tendues du plafond au sol, avec différentes terres dans le tissu. Donc ça fait des petits tas de terres de différentes couleurs. Et il y en a 9, je crois. Et je les installe en rond. Voilà. Et je voulais une bande de son, quelque chose qui ait du sens aussi. Et voilà. Et donc j'avais enregistré moi des sons. J'avais enregistré un chanteur malgache que certains connaissent peut-être ici, qui s'appelle Edgar Avatra, qui habitait Chandon, qui est un auteur, compositeur, interprète d'origine malgache, qui est quelqu'un que je connais depuis des années. Et il y a une berceuse que j'adore, qui chantait, et donc il m'a prêté sa voix, il m'a chanté, j'ai enregistré. Et Jérôme, donc, j'ai demandé à Jérôme, effectivement, de travailler avec tous les sons que je lui ai passés, plus ce qu'il pouvait amener. Et du coup, ça fait un très...
Oui, un très bel
ensemble.
Oui, des musiques d'accompagnement, c'est un peu... c'est très réducteur par rapport au travail de Jérôme.
Ouais, qui est, d'autant plus que c'était une belle expérience. C'était la seule... Enfin, j'ai eu une autre expérience un jour, mais c'était plus du témoignage. J'avais travaillé avec la médiathèque de Mably sur une installation que j'avais appelée Sens ouvrier, où il y avait du son aussi, mais où là, j'avais enregistré des gens qui témoignaient. c'est pas pareil. Alors que là, pour Terre Douce, Jérôme, il fallait vraiment que, voilà, qu'il crée quelque chose. Et du coup, je me suis rendu compte que le son, c'était comme les couleurs ou les, je sais pas, les friandises, la nourriture, etc. On n'aime pas tous les mêmes choses. Donc, il avait mis, par exemple, des sons qui étaient métalliques, aigus. Et j'ai dit, ah non, c'est pas possible, c'est tout bonnement pas possible, quoi. Et vraiment, là, je me suis aperçue que le son était très, très important, en fait, sans qu'on s'en rende compte, parce que quand on n'est pas musicien, quand on n'est pas dans cette partie-là, ou technicien, enfin, je sais pas, mais ben, on se rend pas compte que le son peut vraiment nous, voilà, nous imprégner ou nous rebuter.
Oui. Et puis, oui, ou raconter des choses, parfois davantage que les images. Ou, alors, revenons aux travaux en volume. Le premier, quand vous passez de la 2D, de la peinture au volume, c'est du fil, c'est des fils d'arcade. C'est quoi comme matière?
Alors, j'ai commencé par acheter de la toile, qui était la toile dont je me servais pour peindre, parce que je préparais mes toiles. Donc j'ai pris cette toile-là, et après oui, j'ai travaillé avec des fils d'arcade que j'avais récupérés au musée de Charlieu, puisque je travaillais à l'époque au musée de Charlieu. Et les fils d'arcade, c'est des fils de lin qui sont utilisés sur les métiers à tisser jacquard. Donc en fait, c'est les fils qu'on voit descendre du métier et qui soulèvent les fils de chaîne. Et donc c'est des fils qui sont très costauds, qui sont très beaux. Ils ont un côté un petit peu doré. Voilà, ils sont enduits de paraffine, de poids. Je ne sais pas exactement quelle est la substance qu'il y a dessus. Et du coup, j'ai fait plusieurs pièces avec ça. Ouais.
En fait, c'est la matière qui vous inspire une forme ou un... Comment ça s'élabore une œuvre pour vous?
Alors, ça dépend soit de la matière, parce que des fois j'ai des matières en tête et je me dis je vais faire quelque chose avec, mais il faut que voilà, ça chemine et au bout d'un moment j'arrive à, et à voilà, soit à un événement, soit à force de réfléchir, je réfléchis pas, ça mûrit en fait tout seul. Soit c'est des rencontres avec des matières, comme les perles par exemple. Tu veux parler des perles? Pardon, vous voulez parler des perles?
Le vouvoiement, bien sûr, n'est pas obligatoire, mais j'ai réalisé au fil des rencontres que j'ai vues d'abord en tant que spectateur que deux personnes qui se vouvoient, ça permet au public d'être un peu à égalité. Alors si on se tutoie, on est entre potes et vous êtes mis de côté. Donc on se vouvoie.
Donc je vouvoie, je vouvoie tout le monde ce soir.
sur le mûrissement et en quelque sorte la façon dont les choses s'élaborent pour vous, vous avez, je pense que c'est vous, choisi cette phrase de Glenn Gould qui est dans le catalogue là.
C'est votre ami Christian.
Ah oui, d'accord. Ça vient d'une autre source, mais vous l'avez validée, donc elle est là. Le but de l'art n'est pas la libération d'une éjection momentanée d'adrénaline, mais plutôt la construction graduelle tout au long de la vie d'un état d'émerveillement.
Oui, je valide.
Ouais, c'est assez puissant, et je trouve que ça correspond aussi à votre travail. L'évolution graduelle, le fait qu'on soit pas dans... on voit bien ce qu'il veut dire, la libération d'une éjection momentanée d'adrénaline, c'est-à-dire, ça pourrait être l'abstrait lyrique ou quelque chose de spontané de vos œuvres. On va en juger tout à l'heure en regardant quelques exemples que vous avez apportés. Sont élaborés lentement, enfin il y a du temps dans chacun de vos travaux.
Oui.
Beaucoup.
Beaucoup.
Beaucoup de temps. On va en juger là, tiens, puisque on en est par là.
Après, j'ai des pièces, comme Père Douce tout à l'heure dont je parlais. Ce travail-là, c'était un travail de récolte, parce que je voulais de la terre qui venait de différents endroits de France. Donc j'en ai pris en Bretagne, j'en ai pris dans le Puy-de-Dôme. Enfin, dès que je voyais de la terre dans un talus dont la couleur me plaisait, j'allais, stop, m'appelle mon sac, hop. Le mûrissement, il s'est fait au fur et à mesure, le temps de tout mettre en place, c'est-à-dire quel tissu je prends, les terres, comment je vais installer ça, la musique, regrouper les différents éléments pour le son, etc. Mais après...
Non, encore.
À la baguette.
On va voir qui est-ce qui organise ici ou pas. Si vous voulez avoir une idée de ce travail-là, justement, de Terre Douce, vous pouvez aller sur le site internet de Catherine, catherinechanteloup.fr. Voilà. Et c'est un site qui est très bien fait. Et il y a des photos de ces installations, et notamment de celle-ci, qui est vraiment superbe.
Mais il n'y a pas le son.
Il n'y a pas le son.
Il faudrait mettre le son.
La lente maturation et la fabrication au long terme. Prenez votre micelle, dans les premières pages, avec cette œuvre qui s'appelle La Vilaine. J'ai des questions d'ailleurs à propos des titres. Je sais pas, quand vous faisiez des peintures abstraites, quel titre vous donniez?
Je ne me rappelle plus. Non, ça décrivait pas, c'était pas.
C'était pas figuratif.
Non.
Alors que vos titres rappellent ou évoquent une figuration, un objet.
Oui.
Vous faites des sculptures abstraites, mais vous leur donnez des titres qui sont connotés figuratifs ou du moins d'une représentation. Pourquoi la vilaine?
Alors, donc la vilaine, c'est il faut que je reprenne du début, parce que la vilaine, en fait, c'est ce sont des petits bouts de mousseline de coton que j'ai déchiré, que j'ai découpé, que j'ai effiloché et que j'ai froissé dans mes mains. Après, une fois que ça a été fait, ça, chaque brin était cousu sur lui-même, et donc ça fait des grands bouts comme ça, après ça fait des petits bouts, et chaque petit bout est cousu à un autre bout de manière à ce que ça fasse un filet comme vous voyez sur l'image. Et cette pièce là effectivement, elle m'a pris un an, j'ai travaillé que sur elle pendant un an, petit bout par petit bout, ça fait ça, et elle s'étire comme ça dans l'espace, et donc elle fait, une fois tout étiré, elle fait 7 mètres par 8.
5, 7 mètres par 5.
C'est ça.
D'ailleurs, elle pourrait faire plus maintenant? Vous pourriez reprendre?
Alors,
continuer,
ce que j'aime bien dans l'idée, c'est de pouvoir continuer une œuvre, qu'elle soit pas fermée, qu'elle soit pas repliée sur elle-même, à part certaines comme celle-là, je peux pas aller plus loin. Mais la vilaine, oui, elle pourrait se poursuivre.
Elle pourrait se poursuivre.
Alors, la référence au titre, parce que ce tissu, une fois froissé, fait penser à un doudou, parce qu'il est très doux, en fait. Enfin, une mousseline, donc c'est très doux. Et donc, il y avait un côté doudou, comme un doudou géant. Donc, il y avait cette idée d'enfance derrière. Et la vilaine, parce que par rapport à l'enfance aussi, dans notre région, quand une petite fille n'est pas sage, on lui dit « t'es vilaine ». Et j'ai toujours été étonnée qu'on utilise ce mot pour dire à quelqu'un « t'es pas sage ». On dit « t'es pas sage », quoi, on dit pas « t'es vilaine ». Du coup, voilà, c'est ça.
Parce que c'est une pièce qui n'est pas sage. Bon. Elle est douce, mais pas sage. D'accord. Alors, avant de les voir, ces pièces, là, il y a une série qui s'appelle Vanité. Donc, moi, évidemment, en tant que... Parce que, voilà, j'aime bien l'histoire de l'art. Vanité, ça m'évoque tout de suite les vanités du 17e. Alors, je vois un peu pourquoi, mais j'aimerais vous entendre parler de ça, justement. Est-ce que c'est... Pourquoi vanité? En résumé.
Pourquoi vanité? devais être dans un état d'esprit, avoir envie de faire du vanité. La première, celle-ci, là. Tu veux toujours plus.
On va bientôt les regarder. Vanité 1.
Donc, forme circulaire. Dans la 1, j'ai commencé par le milieu, en fait. Donc, ce sont des petites perles qu'on m'a données, que j'ai récupérées, qui sont des perles visiblement destinées à la haute couture. Je les ai vues sur des robes de Jeanne Lanvin, donc je suppose qui dataient de 1915, 20, je ne sais plus. Donc, je suppose que ces perles-là, c'était vraiment des perles pour la haute couture. Et donc, elles sont enfilées sur un petit fil de cuivre argenté. Et donc, j'ai commencé par le premier petit cercle. Je pouvais former un cercle parce que c'est des perles allongées. Donc, il fallait quand même que j'arrive à avoir un cercle avec cette section de perles. Et donc, au fur et à mesure, les perles se sont imbriquées comme ça, les ronds de perles se sont imbriqués. Et je couds chaque rond de perles sur la toile. Ça, c'est le côté nombril. Voilà, c'est le nombrilisme, ça.
D'accord.
Voilà.
D'accord.
Après, il y a l'autre. Je ne sais toujours pas que je vais
dire.
C'est très difficile pour moi de parler
sentez
sans
le,
montrer
le suspense. Non, mais on va les montrer, bien sûr. Vanité 2.
Vanité 2. Donc, c'est toujours le rapport au luxe, puisque ces perles étaient destinées au luxe. Et là, celle-ci, j'ai utilisé ces perles-là un petit peu irisées qui faisaient penser à la glace et qui me faisaient penser au hublot, la forme, et j'ai pensé au Titanic.
D'accord.
Voilà.
Première classe.
C'est juste des histoires.
Ah non, mais ça, c'est. Alors là, ça, je ne l'aurais pas deviné. Mais du coup.
C'est des histoires que je me raconte après.
Non, parce que ce qui m'intéresse dans les vanités. Les vanités, c'est au XVIIe siècle un thème artistique qui est très courant dans la peinture occidentale, où on représente, ce sont des natures mortes, et il y a toujours la présence d'un crâne, d'un élément qui rappelle qu'on va mourir. C'est un memento mori, hein. Souviens-toi que tu dois mourir. Et du coup, là, si le Titanic intervient dans la vision du... Voilà, on y est. On y est. Bon, allez, on va regarder ces pièces. Donc, elles sont sur cette table. Et donc, vous pouvez vous lever et venir voir.
Le travail de Catherine est souvent assez monumental, disons que les très petites choses qui étaient possibles de Au musée de Charlieu. Et voilà. Donc,
amis qui étaient aussi des, qui sont aussi des amis à moi, Jean Vernet et sa femme, Denise. Quand M. Dupéret est décédé, il m'avait dit à un ami d'Ali, donc Jean Vernet, de bien penser à prendre les perles qui étaient dans son grenier et de les donner à quelqu'un qui pouvait faire quelque chose. Donc Jean Vernet m'a appelé un jour en me disant j'ai des perles, j'ai plein de perles, est-ce que tu en veux ? Et il se trouvait que, bizarrement, quelques semaines avant, je m'étais dit, il faut que je m'achète des perles. J'avais envie de travailler avec des perles. Donc ça, c'est des choses aussi qui sont assez étonnantes. Quand on crée, quand il y a des correspondances, des trucs qui se passent. Et donc, je suis allée voir ces perles et j'ai été fascinée. Par la diversité des couleurs, irisées, pas irisées, mates, brillantes, longues, courtes, cabossées, c'est assez dingue. Et j'ai choisi que les coloris que j'allais utiliser, que j'étais susceptible d'utiliser, je ne savais pas ce que j'allais en faire du tout. Et donc le reste des perles, celles qui étaient plus colorées, avec des couleurs plus vives, Jo Bernet les a données à un couvent qui tisse la soie, et donc comme ça, les sœurs du couvent pouvaient broder des choses avec des perles dessus. Voilà, et donc moi, quand j'ai eu cette matière-là, le problème, ça a été, qu'est-ce que je fais avec ? Parce que je ne voulais pas que ça fasse justement broderie haute couture ou broderie tout court, quoi, et... Je ne voulais pas que ça fasse bijoux non plus, c'était très compliqué. Et puis je lui ai dit, je vais faire un remplissage de perles. Donc voilà les remplissages de perles de manière dirigée. Voilà, j'ai fait ça, mais je n'ai pas fait que ça avec ces perles. J'ai fait une grande pièce pour la bambouseraie d'Anduze, que vous avez vu, les petits ronds, qui étaient... je ne sais pas si tu
veux en parler,
si on veut en parler.
Qui s'appelle
Aude.
C'est un roux, Aude. Oui, et donc chaque cercle est fait avec une...
Donc chaque petit rond est fait avec... ce sont des paires de différentes... pas couleurs, parce que c'est des transparentes, mais elles ont quand même toutes... c'est toutes des matières, des formes différentes. Et chaque petit rond est attaché à un petit rond à côté avec un petit fil de pêche qui ne se voit pas. Et après, ça fait des modules et j'attache les modules entre eux. Et là, pour la bambouseraie, ça faisait 3 mètres de haut par à peu près de, je ne sais plus combien, de large. Et c'était la première fois que j'installais une œuvre les pieds dans l'eau, parce qu'en fait, là, c'est au-dessus d'un bassin à poisson rouge. Voilà.
Il y a de l'eau, il y avait des...
Et y a, alors là, sur la côte, on ne voit pas, ouais, mais il y a de l'eau qui descendait derrière mon rideau de perles.
Voilà. Des ronds dans l'eau, mais verticaux.
Voilà, des ronds dans l'eau, mais verticaux. Et c'était très chouette, parce qu'entre l'eau, le scintillement de l'eau, parce que comme c'était une serre... Enfin, j'avais choisi cet endroit puisque le projet il se monte. On va avoir, parce que ça continue à la bambouseraie cet événement, c'est-à-dire que les artistes vont sur les lieux, voient ce qu'ils peuvent faire avec notamment du bambou, mais moi j'ai refusé de travailler le bambou, trop dur, et puis trop riche en œuvres passées, je dirais. Enfin, hein, je suis pas asiatique et quand j'ai vu tout ce qui se faisait en bambou, j'ai dit non, je peux pas. Par contre, j'avais proposé ça et la directrice de la bambouserie m'a dit oui, banco, tu auras la serre. Voilà.
Pour toi. Et c'est assez rare que tu que vous créiez une œuvre pour un lieu. En général, vous créez et puis vous venez installer dans
oui. Ça m'arrive quand même de temps en temps, ouais, mais je fais plutôt mon travail, c'est plutôt ça, quoi. Un travail d'atelier. Et alors celle-ci qui est c'est donc c'est du fil à broder. Voilà.
Donc on dit que c'est résineux, ça.
C'est résineux, ouais. Ça se montre au mur aussi. Hein, et voilà, donc en fait, en fonction de la lumière, c'est le même fil. La même couleur, et en fonction de la lumière et de votre passage devant, quoi, ça change et ça fait différents tons. DMC, un brodé, côté valeur sûre.
Mais combien de temps?
Alors, pour donner juste un ordre d'idée, les trois perles, là, ça m'a pris 2 ans. Je travaille sur les... alors bon, je ne fais pas que ça non plus, 10 heures par jour, hein, mais ça correspond à peu près à 2 ans.
Je peux faire un tout petit remarque. Ça là-bas, avec les différents reflets, ça me fait penser que moi, j'ai vendu des tissus d'ameublement bien toute ma vie. Et on disait toujours pour les clients qui voulaient faire leur rideau, surtout marquez bien le tissu en haut à gauche. Parce que si vous mettez un morceau de tissu comme ça et puis l'autre après, ben, vous allez revenir vers nous en disant c'est pas la même couleur.
Ah ouais.
Et c'est ça, on retrouve tout à fait ça. Il
ouais.
faut toujours prendre le tissu dans le même sens.
Ah ouais.
Donc on voit bien là, les différents aspects du reflet de la lumière sur le travail du fil à broder, c'est la même chose, c'est des fils.
Ouais.
Et là, la préparation, il y a un dessin avant de passer tous ces fils.
Non,
c'est comme ça.
À main levée. Pour toutes mes pièces, en général, j'attaque quelque chose, je vois si ça marche. Sur un petit espace, je vois si ça marche. Si visuellement ça me convient et ça marche, je continue et il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Quoi. Par contre, si je vois que ça ne marche pas, s'il y a quelque chose qui ne va pas au début, j'avais fait une grande broderie, j'ai une grande broderie qui fait 13 mètres de long, où j'ai dessiné en cousant, en fait, sans, je ne les ai pas dessinés dessous, des petits oiseaux, des silhouettes d'oiseaux blancs, donc blanc sur blanc. Et avant de les faire blanc sur blanc, je les ai fait noir sur blanc. Et ça ne me plaisait pas, il y avait un truc qui n'allait pas, donc type les hirondelles sur le fil, etc. Et en fait, j'ai dit non, il faut que je prenne du blanc, et là, après, c'était...
Est-ce qu'il était au château de...
Château de Beaulieu.
Voilà,
oui.
Je l'ai vu.
Oui.
C'est magnifique.
Et celui-là, quand je l'ai fait, celui avec les oiseaux, je l'avais exposé. Alors, les lieux d'expo sont très importants pour moi. Les lieux où j'expose sont très importants. Et notamment, cette grande bande de tissu blanc avec les silhouettes d'oiseaux blancs. La première fois que je l'ai montré, c'était pour le musée Edmond Rostand à Cambon-les-Bains. Dans la maison d'Edmond Rostand, il y a un salon noir, il s'appelle le salon chinois, qui est construit en rond comme ça, et donc j'avais mis en rond, ça faisait pile la taille, c'était pas voulu, mais les 13 mètres faisaient le tour de la salle et s'arrêtaient vers les portes, vers la porte.
Et comment vous définissez la forme? Pourquoi vous avez, quand vous avez brodé là, vous avez pas fait un rond comme les autres? Pourquoi
alors,
cette forme semi-finie,
bah, déjà, j'aime bien les montagnes comme ça, j'aime bien. Et puis parce que, alors pour tout vous dire, parce qu'on est un peu feignant aussi, c'est que c'était entier normalement le disque là. Et puis j'ai eu une expo à faire, j'ai dit non mais j'arriverai jamais à finir mon disque, donc je le coupe. Et si un jour j'ai envie de refaire, je ferai l'autre partie, j'ai gardé l'autre partie. Mais j'ai plus envie de. Il va très bien comme ça. C'est sa vie, c'est comme ça.
Et vous choisissez comment vos lieux d'exposition?
Alors, soit je les ai vus et je fais tout mon possible pour y aller. Ce qui a été le cas pour le château d'eau à Bourges, qui est un lieu magnifique, construit en rond aussi. Sans lumière naturelle du tout, c'est un lieu qui est magique, si vous pouvez aller voir, c'est assez impressionnant. Ou le château de Vauguet, en Ardèche. Là, c'était un lieu que j'avais vu, j'avais vu des expos là-bas, et je pensais que c'était imprenable, parce que je pensais que c'était des institutions, Et en fait, non, c'était juste une association de gens très sympas, qui m'ont dit, mais oui, on veut bien que vous exposiez. Donc j'ai exposé avec 2 autres artistes, mais il y a eu une expo là-bas, avec catalogue aussi. Au cloître de Saint-Nizier, par exemple, c'est eux qui m'ont demandé. Mais ils me connaissaient, ils connaissaient mon travail.
C'est là qu'il y avait les terres douces, non?
Oui.
Ouais. C'était aussi à Beaulieu, je crois.
Ah oui, à Beaulieu aussi. Ouais.
Et pour la dernière expo que j'ai faite là, l'été dernier, chez Beauhin, donc à l'Aigle, en Normandie, là j'avais fait une expo il y a plus de 10 ans à l'Aigle, parce qu'il m'avait repéré dans une expo vers le Mans, enfin bon, hein. Et il voulait absolument que j'expose dans cette manufacture qui est le dernier lieu en France où on fabrique des aiguilles et des épingles. Mmh, donc voilà, ça allait bien ensemble. Et l'adjoint, enfin l'élu à la culture de la communauté de communes de l'Aigle, des Pays de l'Aigle, m'a demandé de venir. Et ça s'est fait comme ça. Là, c'était une salle un petit peu difficile puisque c'était 400 mètres carrés, c'était une ancienne manufacture, donc des vitres, des fenêtres de tous les côtés. Voilà. Donc en fait, les lieux sont là, il faut faire avec, et c'est un travail aussi d'appropriation de l'espace, de voir comment on s'installe dans cet espace. Et c'est l'autre partie du travail aussi qui est vraiment super. Voilà.
Est-ce que ça vous oblige à recréer? Je vais reformuler un peu différemment. Mm-hmm. Vous avez des œuvres qui sont extraordinaires. Vous exposez, comme vous venez de le dire, mais le fait de dire, par exemple, demain j'expose à la mairie de Rouen, je tiens compte du cadre, je tiens compte de, comme vous venez de l'expliquer, mais est-ce que vous avez besoin de rajouter quelque chose à votre œuvre?
Normalement non.
Non.
Normalement non. Je m'adapte. J'essaye de faire fonctionner les deux ensemble. Il m'est arrivé d'agrandir une série, comme pour l'expo à Saint-Lizier. J'avais une série de nénuphars en lin. J'en avais 9 et il me restait du lin. Je me suis dit, dans cet immense espace de l'église, ça ne va pas le faire, on n'a pas assez, donc j'en ai refait, mais longtemps après, de nombreuses années après. Voilà. Série que je n'ai plus, qui fait partie d'un spectacle maintenant, donc de la compagnie Le Sixième Étage, on en parlait tout à l'heure. Voilà, et qui danse avec les nénuphars, justement.
Il y a un lieu où vous souhaiteriez exposer?
Là, tout de suite, je sais pas. Oui, il y en a plein, hein, Après, j'aime bien les lieux un peu chargés d'histoire quand même. Hein.
Mm-hmm. Mais tu avais exposé aussi à la petite chapelle de Villeray?
Oui.
Une toile et des photos.
Il y avait quelques photos, il y avait 3 photos. Ouais, ben il y avait la cascade, les ronds de perles aussi que j'avais mis à Villeray. Oui, alors à la chapelle à Villeray, c'était pour le lieu, hein, parce que exposer dans une petite chapelle, ça me faisait envie depuis très longtemps, et c'est très, très sympa. Le lieu compte.
Moi, je suis très impressionnée par le travail minutieux et de patience. Et pratiquement tout ce que tu fais, ça demande un temps infini. Ça répond à quelque chose. C'est une sorte de défi à soi-même. C'est quoi?
Alors, c'est pas un défi, parce qu'une fois qu'on est parti dedans, si tu veux, il faut arriver au bout. Tu vois, ça va faire rire Daniel, mais chaque fois, je dis faut aller au bout de sa maquette. Qui avait dit ça, un explorateur qui va sur la banquise et tout, là, comment ça s'appelle? Jean-Louis Etienne. Je crois que c'est lui qui avait dit ça un jour en interview. Il avait dit qu'il faut aller au bout de sa maquette, quoi. Donc, ça, je retiens. Et effectivement, une fois qu'on est parti là-dedans, c'est ce que je disais tout à l'heure. Si vraiment je suis pas bien dedans, ou je vois que ça va pas, ou que c'est compliqué, ou. J'arrête, je passe à autre chose, mais c'est rare parce qu'une fois que je suis partie, il faut aller au bout, quoi. Mais je sais aussi que ça s'arrête un moment. C'est comme quand on construit sa maison. Ça doit être terrible de construire sa maison. Je ne pourrais pas le faire, mais je sais qu'au bout d'un moment, la maison, elle est presque finie, quoi. Donc là, c'est exactement pareil.
Quand vous avez fini une pièce, vous mettez combien de temps pour recommencer une autre du temps ou elle se multiplie?
Ça dépend. J'essaye de ne pas faire plusieurs pièces en même temps, notamment quand elles sont longues, quand elles sont de longue haleine comme ça. J'en fais une et puis après j'en fais une autre. J'attaque pas plusieurs trucs en même temps.
Entre deux pièces.
Entre deux pièces finies. Ben, j'en fais une, mais non, enfin, ouais, c'est pas.
Il faut du temps ou si ça peut être l'inspiration de l'ordre
du
Non,
il peut y avoir des séries ou non, ou après, ça peut être plus un travail de cogitation, de maturation, des idées. Avant de se lancer dans quelque chose, je disais à Christian aussi, faut que c'est un sens. Si c'est faire pour faire, ça ne m'intéresse pas. Donc, il faut que quand je fais quelque chose, que ça ait vraiment un sens pour moi, après pour les autres peut-être aussi, mais que moi, qu'il y ait un sens à ce que je fais.
Est-ce qu'il y a les deux démarches? Parce que là, c'est les perles qui ont donné l'idée de qu'est-ce que je peux en faire. Mmh. Est-ce qu'il y a l'inverse des idées et qu'il faut trouver le matériau pour le réaliser?
Oui, ça peut être ça aussi.
Ouais. Mmh.
Et ça peut être un lieu?
Alors, rarement. Enfin, le lieu, si, il va m'inspirer pour exposer, pour montrer mon travail, pour faire une installation pour ce lieu à la limite. Ouais. Mais c'est souvent la matière qui fait le déclic, quoi. Par exemple, dans le petit livret, il y a la photo des lichens, le carré d'un mètre par un mètre de lichens. Ça, c'était c'était juste chez nous, un arbre, un acacia et du lichen. Et vous voyez tous ces petits bouts de branches qui tombaient. Je me disais, tiens, c'est chouette, qu'est-ce que je pourrais en faire? Ça a duré comme ça un certain temps, je ne sais pas combien de temps, de mois. Et un jour, je les ai juste posés les uns à côté des autres comme ça, et j'ai vu que ça faisait une couleur, une lumière incroyable, et je me suis dit, c'est bon, quoi, j'y vais, je fais... Donc ça, ce sont des petits bouts de branches pleines de lichens, qui sont donc cousus avec du DNC à broder, je tiens à signaler parce que ça fait 3 ans que je prends bien, et elle a passé 2 hivers dehors, cette pièce, et ça tient toujours. Le fil tient toujours. Donc tous ces petits bouts de bois ont été cousus les uns contre les autres. Ils s'assemblent comme des pièces d'un puzzle, quoi. Et à partir de là, ça fait l'effet que ça fait, quoi. C'est pour ça que là, pour la chapelle, je voulais absolument qu'il y ait cette pièce-là. Alors là, oui, pour le coup, le lieu, il est important. Et la pièce, elle a été faite vraiment pour ce lieu. L'idée était là, mais quand j'ai su que j'exposais là-bas, j'ai dit, c'est ça que je mets de la lumière, elle sorte de ce carré. L'effet voulu, c'était ça.
Et en ce moment, il y a un travail en cours?
Alors, en ce moment, je n'ai plus d'atelier, donc c'est un petit problème, mais je vais en avoir un nouveau bientôt. Donc ça c'est un problème, hein, l'atelier, quand on est habitué à avoir un lieu pour travailler, alors je peux travailler dans d'autres endroits, mais il faut être quand même un peu dans sa bulle aussi. Et ça part plutôt sur des végétaux, voilà. Pas forcément du tissu, mais des végétaux.
La mousse?
J'en dirai pas plus.
Il sera brodé avec du DNC.
Je ne sais pas s'il y aura de la broderie. Et il y a du fil, par contre. Il y a du fil qui maintient déjà.
Et ça ne pose pas un problème pour la pérennité de l'œuvre, les végétaux, même pour sa durée, c'est là qu'on sera fait du lendemain.
Alors, bon, à part ce que je vous montre là, qui peut durer quand même dans le temps, puisque c'est du verre, et puis bon, la broderie, je ne vois pas bien ce qui pourrait la faire bouger, à part un verre bien rouge dessus. Mais j'ai l'impression que tout ce que je fais, c'est fragile. Voilà, c'est toujours à la limite comme ça. Alors il y a 2 pièces que j'aurais bien aimé vous amener, mais elles sont trop compliquées à manipuler. Les 2 dernières que j'ai faites, ce sont des petits bouts de fil de fer qui sont cousus sur un fond blanc. et ils bougent quoi, en fait, ils sont pas complètement attachés sur le fond blanc qui est en tissu. Et chaque petit brin de fil de fer peut se couder. Et il ne faut pas, parce que c'est que des petits arrondis comme ça. Donc pareil, c'est sur mon site, donc si vous voulez les voir, vous pouvez les voir. Et si, voilà, si toutefois quelqu'un passe la main dedans et coude tous les bouts de fer, il faut que j'enlève et que j'en remette, ou bien la pièce est cuite, quoi. Donc j'ai l'impression aussi que dans mon travail, ça c'est pas qu'une impression, il y a toujours un côté fragile de, où on peut basculer et que il peut rien quoi. C'est voilà, un petit peu.
C'est d'autant plus étonnant vu le nombre d'heures que tu passes dessus.
Voilà. Par exemple.
C'est une façon de voir. Oui. Je trouve que c'est un rapport intéressant. On tombe et là du coup il n'y a pas de vanité quoi.
Oui. La pièce dont je parlais tout à l'heure, le grand bout de tissu qui est une gaze amidonnée avec les oiseaux blancs dessus, si par hasard elle prend l'eau, elle est complètement fichue, tout part en lambeaux. Mais bon, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est de se dire ouais, je n'ai pas du bronze quoi, je taille pas le marbre, voilà. C'est pas éphémère, mais c'est
impermanent.
Donc après, bon, c'est moi, c'est mon travail comme ça.
Mais finalement, quand vous faites ça, vous êtes ça vide l'esprit.
Je sais pas, ça vide l'esprit, ça, c'est un côté oui où on, forcément on se recentre et où il y a ce côté voilà, travail très manuel où il faut penser à, comme sur celle-ci, il fallait que j'arrive à trouver des petites perles aussi dans toutes mes perles pour combler tous les vides qui se créent. Voilà, il y a ce côté technique manuel. Dans chaque pièce que je fais, il y a une façon de faire différente. C'est-à-dire qu'il faut que je réfléchisse à comment je vais pouvoir faire pour que ça soit le mieux possible. Le moins anecdotique, le plus pratique, comment je vais le montrer, comment je vais faire pour soutenir un truc qui pèse je sais combien, etc. etc. Donc il y a tout ça. Mais quand je suis dedans, j'étudie de la musique, je pense à plein de trucs, ça, et puis voilà, quoi, c'est pas méditatif au sens spirituel, mais c'est je me recentre, c'est sûr.
Ça occupe l'esprit.
C'est ça.
Bon. C'est une sorte de méditation quand même. Quand l'esprit est... On ne peut pas partir.
Il y a d'autres questions? Quelles questions auriez-vous aimé qu'on vous pose?
Alors ça.
C'est une question à la con. Moi, on me l'a posée une fois, j'ai jamais su répondre. Bien, écoutez, merci beaucoup. Alors, merci Catherine.
Merci.
Donc, ce que je vous propose, on va laisser Catherine et Dan replier ça soigneusement. Et si vous voulez rester encore.